Les coqs chantent et jour paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Je suis le journaliste que vous attendez. Aujourd'hui, nous rendons visite à l'école des 100 écoles dans le cadre de grands contrôles dans le 12e arrondissement de Paris. Ce lieu, ce sont des anciens entrepôts de la SNCF reconvertis en centre commercial.
Par intuition, j'ai suivi votre élève là depuis le métro.
Quelques explications sont nécessaires pour comprendre le problème. Lorsque le jeune qui fuit la guerre, la misère ou un mariage forcé arrive en France, au terme d'un périple compliqué, il devient ce que l'administration appelle un MIE, c'est-à-dire un mineur isolé étranger. Un MIE ne peut pas être expulsé, mais il faut d'abord que le juge examine son cas. Et pendant ce temps, le mineur isolé étranger ne peut pas aller à l'école. C'est pour répondre à ce besoin que des bénévoles ont monté l'association Droit à l'école, qui a fondé cette école des 100 écoles. Sylvain Perrier fait partie des initiateurs de cette école.
Alors, c'est une école qui est montée avec que des bénévoles. C'est 8 classes destinées aux jeunes exilés parisiens qui viennent d'à peu près tous les pays du monde, qui sont souvent à la rue ou parfois hébergés dans des familles solidaires, qui galèrent à Paris et qui, bien sûr, veulent étudier. Et personne ne leur propose cette solution-là parce que l'école, la porte de l'école nationale leur est fermée tant qu'ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Sauf que cette procédure prend 3, 4, 6, 18 mois, ça peut être très long. C'est une procédure qui vous amène plusieurs fois à voir un juge des enfants, qui vous emmène faire des évaluations, des tests osseux, des entretiens. Il faut des avocats, tout ça est très très long. Et pendant ce temps-là, ces jeunes n'ont aucune protection. Ils vivent de rien, ils galèrent à Paris pour se nourrir, galèrent bien sûr pour trouver un toit. Et ils n'ont pas accès à l'école, alors qu'ils, pour la plupart, ou pour beaucoup d'entre eux, l'école est ce qu'ils sont venus chercher en France.
Là, c'est la grande halle, dans laquelle il y a plusieurs cours.
Alors, l'école des 100 écoles, comment cette aventure a commencé?
Alors, nous sommes plusieurs, à titre personnel, à avoir été hébergeurs solidaires. Et donc, on était plusieurs à voir des jeunes comme ça qu'on hébergeait dans notre salon, dans un coin de canapé, dans des chambres. Et on ne savait pas comment les occuper dans la journée. On s'est dit que la meilleure des choses à faire était de créer cette école. Et on s'est lancé à plusieurs à monter cette structure qui accueille les jeunes pendant la journée.
Ça a été comment au début ?
Tout se fait petit à petit. Au début, on n'avait pas de locaux, hein, donc on faisait ça dans des bibliothèques et puis dans des salles que nous prêtait la mairie, des centres d'animation. Donc on a eu le Théâtre de la Cité Universitaire qui nous a prêté des locaux. Au début, c'était une demi-journée par semaine, puis deux, puis trois. Puis maintenant, on a des jolis locaux et des cours toute la journée, tous les jours.
Donc, dans un premier temps, les soustraire à la rue et à toutes les tentations. Deuxième temps, leur donner un bagage de départ.
Avant ce temps 1 et 2, c'est répondre à leur attente. Hein. Ils nous disent, ils veulent apprendre, ils veulent aller à l'école. C'est vraiment leur leitmotiv. Hein,
vous. Donc c'est eux qui viennent vous voir.
Ah oui, oui, oui. C'est eux qui sont à réclamer. Ils ont bien compris que c'était la clé et ils ont une motivation énorme.
Voilà, donc là il y a les petits cours.
Ah oui, c'est un petit cours là.
Voilà, en fait c'est du soutien scolaire.
Oui. Aujourd'hui vous avez combien d'élèves ici?
Enfin, on a 10 classes, 5 groupes de niveau, 10 classes et 50 élèves.
Et combien de nationalités ?
Toutes les nationalités. On a quelques Afghans, on a de temps en temps des jeunes du Bangladesh, on a eu des jeunes de l'Afrique de l'Est, on a des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, on a aussi des jeunes du Nigeria, de l'Angola, on a toutes les langues qui se sont parlées, Soudan et récemment Guinée, Mali, Côte d'Ivoire un petit peu aussi.
Un peu suivant l'actualité quoi.
Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de Maliens aujourd'hui et de Guinéens, et ça, on peut dire que ça suit l'actualité, oui.
Et les professeurs, comment vous les avez recrutés ou bien ils sont venus tout seuls?
Alors, tout toutes les personnes que vous avez croisées ce matin, peut-être une quinzaine, sont tous bénévoles. On vient tous donner à minima une demi-journée par semaine. Certains donnent beaucoup plus de temps pour prendre ce qu'on appelle un créneau, deux heures ou trois heures dans l'emploi du temps des jeunes. Donc ce sont des professeurs qui viennent de partout, de tous les, on va dire, milieux sociaux et profils. Vous avez des retraités, mais finalement relativement peu. Vous avez beaucoup de professions, on va dire, de cadres indépendants, donc qui peuvent se libérer une demi-journée par semaine, mais le président de l'association est un artiste peintre. Nous avons beaucoup d'étudiants aussi qui, dès qu'ils ont leur emploi du temps, qui marche par semestre, voient qu'ils ont une après-midi de libre, une matinée de libre, et viennent prendre un créneau, soit de mathématiques, soit de français, soit de, on va dire, SVT, sciences de la vie et de la terre, soit cours d'anglais, informatique. Et on tourne avec une cinquantaine de bénévoles.
L'idée est très généreuse, on ne peut que la saluer, l'école des sans-écoles, mais il faut de l'argent qui paye tout ça.
Quand on a besoin d'argent, on fait des appels à dons. Nous sommes entourés par beaucoup d'individus qui sont sensibles à cette cause-là, beaucoup d'hébergeurs solidaires, et qui, chacun à la mesure de ses moyens, fait un don défiscalisé. Et nous fonctionnons avec les dons essentiellement des particuliers, des bénévoles. Alors, on a quelques organismes, quelques sociétés qui nous ont financés pour nous donner des fournitures scolaires, par exemple. Voilà, vous avez fait le tour des 6-7...
C'est intéressant tout ça. Il y a ici deux préoccupations. Redonner confiance et éviter à ceux qui étaient scolarisés dans leur pays de perdre leurs acquis, et permettre aux jeunes non francophones et sans scolarisation antérieure d'acquérir le socle de connaissances nécessaires à la bonne intégration scolaire. Et par le mécanisme bien connu du bouche à oreille, aujourd'hui, beaucoup d'autres jeunes frappent à la porte.
Ce qui nous rend triste, c'est de voir la liste des jeunes qui sont toujours sur liste d'attente, c'est-à-dire qu'on a autant de jeunes sur liste d'attente que de jeunes dans nos classes. Donc c'est vrai qu'on est quand même à la recherche de nouveaux bénévoles, de forces vives, pour pouvoir peut-être pousser un petit peu les murs et accueillir un peu plus de ces jeunes-là qui aimeraient bien venir. Les jeunes, quand ils partent avec... Mais c'est normal, à cet âge-là, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, avec plein d'espoir, ils vont vivre l'enfer pendant leur parcours migratoire, puis la rue à Paris. Et dans tous ces cas, ça laisse de grandes blessures et beaucoup de traces. L'objectif de l'association, c'est de les mettre très vite à l'école pour qu'ils deviennent des enfants normaux. Normaux dans le sens, ils sont déjà assez exceptionnels parce qu'ils viennent avec une richesse incroyable que n'ont pas les autres enfants français. Par contre, ils doivent récupérer très vite les codes de la France pour pouvoir s'intégrer, quoi.
On vous dit bon courage.
Merci. Merci à RFI aussi.
Okay. On a un invité. Voilà. Ah, mademoiselle vient d'arriver. Entrez, je vous...
L'association Droit à l'école propose dans cette école des sans-écoles 4 jours par semaine tout au long de l'année des cours personnalisés en effectif réduit en français et en mathématiques. Un cours d'initiation en sciences SVT animé par des professeurs bénévoles. L'une des professeurs de français a bien voulu nous recevoir dans sa classe.
Je m'appelle Laurence Corégnan, je suis bénévole au sein de l'association Droit à l'école. Je donne des cours de français le samedi matin pendant mes temps de repos. Sinon, je suis cadre au ministère de la Culture le reste de la semaine.
Vous pouvez nous raconter votre premier jour ?
Le premier jour, j'étais venue pour observer un cours de français et il se trouve que la personne qui devait donner cours n'est pas venue et donc je me suis retrouvée devant 6 ou 7 jeunes. J'étais un peu jetée dans le grand bain avec ces jeunes que je ne connaissais pas. Et j'avoue qu'ils m'ont très bien accueillie, j'avais beaucoup d'appréhension, je suis pas prof de français, j'ai jamais enseigné, donc c'était une première aussi pour moi. Et en fait, c'est comme des jeunes qui sont très à l'écoute, très chaleureux, très attentifs, très respectueux aussi de ce qu'on peut leur apprendre. Et ils sont très curieux, et donc finalement ils nous aident beaucoup, ils posent beaucoup de questions, sont très demandeurs de connaissances et d'apprentissage.
Donc la famille de Pierre, elle habite dans un appartement, et elle habite à quel étage ?
Troisième. L'idée, c'est d'abord d'apprendre la langue du pays, d'apprendre à lire et à écrire, et de les préparer le jour où ils vont aller à l'école.
On est là un peu pour préparer leur entrée à l'école, pour leur faire gagner du temps. C'est des jeunes qui n'ont pas encore la chance d'être scolarisés, qui sont livrés à eux-mêmes. Quand ils iront à l'école, ils auront déjà appris l'alphabet, ils auront déjà décrypté un texte, ils auront acquis du vocabulaire, ils sauront s'exprimer en français, se faire comprendre et comprendre les autres pour qu'ils comprennent dans quel univers et dans quel monde ils vivent.
J'ai pu suivre votre cours tout à l'heure. Et vous avez tous les niveaux. Il y en a qui ont des rudiments, il y en a qui n'ont pas de rudiments. Il y a des anglophones qui n'ont aucune notion du français. Alors, comment vous arrivez à faire ce mixte?
C'est une des difficultés, c'est de pouvoir s'adapter à tous les niveaux, à toutes les réalités. On est dans une petite classe, là, ils sont à peine une dizaine, donc on essaye de personnaliser. Les plus avancés tirent aussi ceux qui sont moins avancés dans leur apprentissage. C'est une des difficultés, c'est l'hétérogénéité des niveaux. Mais ça fait partie de la réalité de cette jeunesse qui, pour certains, comprennent mais ne lisent pas bien, pour d'autres qui s'expriment très bien en français mais ne savent pas écrire. Et on adapte nos cours comme on peut, mais bon, il y a une bonne ambiance et globalement ça se passe bien.
Si j'ai bien compris, vous-même, vous avez dû vous adapter puisque vous m'avez dit « je ne suis pas prof de français ».
On est aussi un collectif de bénévoles, donc on s'aide mutuellement, on partage nos ressources pédagogiques. Il y a des cours en ligne qui sont aussi donnés par l'Alliance française. Moi-même, je me suis formée aussi à ça pour essayer d'être la plus efficiente et performante pour accompagner ces jeunes. Et le collectif de bénévoles est aussi une ressource sur laquelle on peut compter.
Ah, ça veut dire que, par exemple, vous, quand vous avez un manque, les collègues sont là?
Oui, on partage systématiquement entre professeurs les cours qu'on a donnés, ce qui permet de suivre, peut-être de revoir ce que notre collègue a fait quelques jours avant et d'avoir une certaine continuité pédagogique entre nous. Et on essaye, donc par niveau, d'échanger entre professeurs pour soit avoir une continuité pédagogique, soit parler aussi des cas individuels. On se dit que tel élève a peut-être plus de difficultés à lire et donc on va axer l'apprentissage sur ce niveau. On partage entre nous aussi l'ensemble des cours et aussi les cas individuels.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
On va faire un petit tour, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous représenter, de vous donner votre prénom, du pays d'où vous venez et votre âge. Et peut-être depuis combien de temps tu es ici?
Diaby Dambélé est un jeune de 16 ans qui vient du Mali. La parole est hésitante et il faut de la patience pour ce type de conversation où on ne peut pas tout dire.
Bon, j'ai entendu parler ça, qu'il y avait une école qui s'appelle Droit des écoles, qui aide des mineurs isolés qui n'ont pas encore régularisé. Bon, c'est là-bas que j'ai entendu.
Ah, c'est dans une causerie?
Oui.
Et après cette causerie, tu as cherché à savoir où est cette école?
Oui, j'ai cherché à savoir aussi.
Et qu'est-ce que tu apprends ici?
Bon, ici, j'apprends beaucoup de choses. On fait des mathématiques, on fait des français, on fait des sciences aussi.
Quand tu étais au Mali, tu as été à l'école?
Bon, j'étais à l'école un peu un moment, parce que j'ai fait 6 ans à l'école. Mais je n'ai pas trop de niveau quand j'étais au Mali. Mais alhamdoulilah, depuis que j'ai commencé ici, j'ai avoir beaucoup de niveau même.
Ça avance?
Oui.
Donc quand on te donne un texte, maintenant tu arrives à lire?
Oui, j'essaie de lire, j'essaie d'écrire, mais les orales qui m'ont un peu fatigué, mais pas trop.
Mais ça c'est normal parce que...
Ouais, c'est pas ma langue orale, c'est pas ma langue naturelle aussi. Mm-hmm. Ouais.
Et puis ça ne décrit pas les mêmes réalités?
Oui.
Donc il faut apprendre une nouvelle vie, une nouvelle langue.
Oui, c'est ça qu'on est en train de chercher, d'avoir comprendre le français et de parler comme nous voulons.
C'est-à-dire comprendre la France?
Oui. Je comprends la France aussi.
Donc toi, ton espoir aujourd'hui, c'est d'aller à l'école normale pour vraiment étudier?
C'est ça que j'aime même. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans notre village et dans notre pays là. J'ai pas étudié et pourtant j'ai pas connaître la valeur des études aussi. Dès que j'arrive ici, je connais la valeur des études et des savoirs aussi. C'est ça que j'ai en train de battre fort pour études. Voilà.
Donc il y a un retard que tu veux rattraper.
Oui, voilà.
Je te dis merci.
Et toi, merci aussi.
Le nom de musée à Paris.
Le musée, c'est quoi? Ici, on est fait, ça en est non?
Pardon?
Quand le Tour Eiffel, sont des musées, non, le musée, ça.
Alors, c'est pas un musée, la Tour Eiffel, c'est un monument.
Un musée, ça a l'air de. Moi aussi, à
tu sais pas ce que c'est un musée. Alors, qui est-ce qui peut expliquer à Yaya ce que c'est un musée? Karamoko, il va expliquer ce que c'est qu'un musée.
Mais moi, je sais pas. Moi, je l'ai. Par exemple, l'idée, c'est l'endroit que, là où on existe.
Karamoko Danfaka vient également du Mali. Avec ce deuxième garçon, on retrouve également les mêmes regrets de n'avoir pu étudier et la volonté de rattraper son retard.
Moi, ma mère, il est décédé. C'est pour ça que moi, je n'ai pas continué à l'école. Mon père, il a marié l'autre femme. Donc, moi, j'étais avec lui à la maison. Donc, mon père, il travaillait au sang. C'est pour ça que moi, je n'ai pas continué à l'école. Moi, j'ai déjà regretté parce que pourquoi je n'ai pas fait d'école. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que je suis là, aujourd'hui, j'ai un peu apprendre ici le français. Oui.
Depuis combien de temps tu es dans cette école?
Ici, ça fait 3 mois maintenant.
Donc, en 3 mois, tu as appris des choses?
Oui. Pour moi, je ne sais même pas lire, je ne sais pas écrire, mais aujourd'hui, j'ai lu un peu, j'ai écrit un peu.
Alors, si on te donne un texte aujourd'hui, tu arrives à lire?
Oui.
Et comme j'ai vu tout à l'heure, là?
Oui.
Et tu arrives à écrire aussi?
Oui, j'arrive à écrire aussi.
En 3 mois?
En 3 mois.
Mais bravo!
Oui. Même. Mais les maîtres, ils savent, dès que les jours sont venus ici, premiers jours, je ne sais même pas l'alphabet.
Même l'alphabet?
Même l'alphabet, je ne sais pas. On a fait 1 mois comme ça, on est en train de lire l'alphabet. Mais à partir au bout d'un mois, j'ai tout compris.
Donc on t'a appris l'alphabet, puis après on a décomposé les mots?
Oui. Après on a décomposé les mots. Mm-hmm. Après ça sera facile. Mm-hmm. Pour moi, oui.
Et après, on t'a expliqué une phrase?
Oui, ils ont expliqué une phrase.
Et tout ça, c'était pas difficile?
C'était difficile, mais moi aussi, j'ai besoin de faire de l'école. Parce que si je n'ai pas fait l'école, mm-hmm. je ne peux pas parler en français. Mm-hmm. Donc là, je suis en France. Même si tu as avoir le travail pour parler avec tes amis, ce n'est pas facile. C'est pour tout ça, moi, je me concentrais à l'école. Mm-hmm. Pour faire des cours, pour apprendre à lire.
Concentré.
Même si j'ai gagné les formations comme ça, mm-hmm. je ne fatigue pas beaucoup. Si tu ne comprends pas français aussi, c'est dire.
Ah, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu n'as pas bien étudié ici, oui. même le jour où tu obtiens une formation, oui. tu ne pourras pas suivre.
Tu ne pourras pas suivre. C'est difficile.
D'accord. Je te dis merci.
De rien.
Bon, bah écoutez, merci.
Mesdames.
Monsieur.
Merci.
Merci beaucoup.
Okay. Pour être plus complet, précisons que cette association droit à l'école ne s'arrête pas seulement à la scolarisation des mineurs isolés étrangers, car il y a également l'accompagnement dans les démarches administratives et un soutien moral et matériel pendant les études. Une dernière chose, si vous voulez apporter votre contribution, on peut adhérer à l'association droit à l'école, on peut devenir bénévole et on peut aussi faire des dons. Nous étions aujourd'hui à l'école des sans-écoles dans le cadre de Grand Contrôle dans le 12e arrondissement de Paris, une école qui scolarise les jeunes migrants fraîchement arrivés en France. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.